Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups, présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Startup, vous le savez maintenant, hein, l'émission dédiée aux startups. Aujourd'hui, je reçois Youssef Zakaria, bonjour.
Bonjour Bérénice.
CEO de la startup Meet in Class, qui propose donc du soutien scolaire que vous avez créé en 2017. Alors, je vous laisse nous présenter cette startup.
Alors, tout a commencé en mai 2017, quand une maman m'avait appelé au téléphone. Elle m'avait dit « Bonjour Youssef, je sais que vous avez fait une bonne école d'ingénieur, vous avez une centaine d'élèves à réussir, mais je n'ai juste pas les moyens de payer un cours de soutien scolaire avec vous. Donc, qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce que vous avez une solution ?» Donc, moi, j'avais déjà des élèves que j'accompagnais, donc j'ai proposé de partager le prix du cours avec un élève que j'avais déjà, comme ça, elle paierait deux fois moins. Donc, elle était contente. Et puis, cinq minutes après, elle me rappelle, elle me dit « Youssef, j'ai trouvé un troisième élève. Est-ce que c'est possible de partager par trois plutôt que par deux ?» J'ai dit « Ouais, pourquoi pas, on tente. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en tentant des cours en petits groupes, je me suis rendu compte que ça se passait mieux que des cours à un. C'est-à-dire en gros, c'était pas le prix qui baissait, mais c'était aussi la pédagogie qui s'améliorait. Quand j'étais seul avec un élève, je croisais les bras comme ça et j'attendais qu'il fasse ses exercices. Et parfois, je l'intimidais en le regardant faire ses exercices. Ah oui. Alors que quand on est en petit groupe, justement, quand un élève va réfléchir, on va aller voir les autres. Et puis, dès qu'il y a un élève qui comprend quelque chose, on va lui demander d'expliquer à ses camarades et tout le monde comprend mieux.
Et donc là, c'est des groupes de quatre élèves, hein, c'est ça?
Voilà, donc le tout début c'était 3, ensuite j'ai tenté 4, ensuite j'ai tenté 5, c'était un peu plus compliqué.
Un peu plus compliqué,
du coup voilà, 4 c'était vraiment l'optimal et du coup c'est le format qui existe jusqu'à aujourd'hui.
Et c'est marrant en fait, vous avez vraiment testé, vous êtes aperçu que voilà, 4 ça fonctionnait bien, donc 5 avec, avec l'enseignant.
C'était une sorte de mini R&D, j'étais pas le seul prof qui a fait des cours en groupe, donc on était une petite dizaine de profs au tout début à tester des choses comme ça. D'ailleurs, c'est un peu comme Blablacar, c'est-à-dire que le covoiturage existait avant Blablacar, mais disons que nous, il y avait des profs qui donnaient des cours en petits groupes avant qu'on existe. C'est juste qu'on a aidé à les organiser plus facilement.
Du coup, après, comment ça s'est passé? Alors, vous avez ouvert une première agence à Paris, c'est bien ça?
Alors, on n'était pas en mode agence, on était mode complètement délocalisé. C'est-à-dire que les profs pouvaient organiser une salle chez eux pour accueillir les élèves, donc avec un petit tableau, quatre chaises, une table.
Donc des professeurs que vous recrutiez, vous?
Exactement.
Alors comment ça se passait justement, le recrutement des professeurs?
Justement, en fait, on recrutait les profs comme si c'était des agences. Chaque prof était une agence en soi, c'est-à-dire que chez lui, c'est son agence.
Oui, parce ils reçoivent les élèves chez eux, hein, les professeurs.
Exactement, avant le Covid, évidemment. Ouais. Après le Covid, c'est devenu moitié-moitié, un peu de visio, un peu de cours en live, en direct. Mais du coup, les professeurs reçoivent à la base les élèves chez eux, et c'est maximum 4 élèves par cours. Et du coup, ça leur permet par exemple d'enchaîner des cours. C'est-à-dire que les profs, parfois, ils faisaient une heure de transport pour aller chez des élèves. Donc là, c'est les élèves qui viennent. D'ailleurs, on croit profondément que pour acquérir la connaissance, il faut y aller. Il ne faut pas attendre que ça vienne. En fait, c'est un peu le stéréotype de l'élève qui est comme ça sur son canapé.
Et qui attend.
Et qui attend que le prof arrive. Ça m'est déjà arrivé en plus quand j'ai donné des cours de soutien. Et j'appréciais pas du tout. Je disais déjà, tu bouges de ton canapé, tu viens au bureau, voilà, tu t'assois. Il y avait un minimum de cadre. Et ce cadre, en là, quand c'est l'élève qui se déplace chez le professeur, il y a d'autres élèves. Donc on n'est pas le roi. Voilà, c'est vraiment, on est dans une petite classe, une mini classe. Mais quand même, il y a une personnalisation qui est plus proche du cours individuel que du cours en classe.
C'est vrai qu'avec quatre élèves, on peut quand même passer, enfin, le professeur peut quand même passer beaucoup de temps avec chaque élève, en fait, et faire des cours vraiment adaptés à chaque élève. Quatre, c'est pas non plus beaucoup. Du coup, après, donc, première agence à Paris, rue de Charcot.
Voilà, l'agence, c'est un peu la consécration, c'est-à-dire que c'est notre lieu de travail à Paris et qu'on a décidé de transformer en agence, parce qu'on a toujours été complètement en ligne, je veux dire, on a une plateforme, des professeurs un peu de façon délocalisée. On parle de à peu près 5000 agences Meet in Class, parce que c'est nos 5000 profs actifs qui peuvent chacun accueillir des élèves, mais on a une grosse agence un peu au style des agences de cours de soutien classiques. Donc on voulait vraiment juste faire un test avec ce modèle-là, mais disons que...
Ça s'est ouvert en février, hein, c'est ça?
Voilà, exactement. Mais on se considère déjà comme, disons, la plus grosse structure de soutien scolaire en petits groupes et en groupe en France, parce que Acadomia en 120 agences, et avant ils disaient que c'était la plus grosse agence, alors que nous on en a 5000. Donc déjà, disons, une agence à Paris, mais c'est pas vraiment le fonctionnement. L'agence, c'est juste pour dire, voilà, si vous voulez voir, voilà, c'est finalement un musée de comment se passent les cours. C'est vraiment une, pour voir un exemple de cours. Mais nos 5000 agences, c'est nos 5000 profs qui sont capables d'accueillir des élèves.
Et est-ce que aussi ça permet à Paris, peut-être aux professeurs, parce qu'à Paris, beaucoup de personnes, c'est compliqué de se loger, parfois on ne peut pas forcément recevoir beaucoup de monde, les appartements sont petits. Est-ce que les profs aussi, ça permet aux professeurs parisiens de donner des cours plus facilement dans des locaux, peut-être, non ?
C'est vrai qu'à Paris, c'est plus difficile d'accueillir des élèves, donc ça nous arrive plus facilement dans les banlieues où les logements sont plus grands. Donc oui, ça permet d'accueillir des professeurs, mais on a aussi des partenaires aujourd'hui, on a des mairies par exemple qui accueillent des profs, une vingtaine de mairies dans plein de villes qui accueillent des profs justement pour la même raison, et on a aussi des établissements scolaires qui organisent des cours de soutien pour leurs élèves. Donc on a tout un réseau de partenariats. Donc finalement, notre agence personnelle, c'est un peu comme si c'était juste un partenaire supplémentaire.
Donc si on est professeur par exemple, on se rend sur meetinclass.com, le site internet, et voilà, on s'inscrit, et après comment ça se passe? Vous analysez le profil, vous faites des entretiens avec les professeurs afin de les valider en quelque sorte?
Oui, alors sur meetingclass.com, il y a un petit bouton tout en haut qui s'appelle Donner des cours. On clique sur Donner des cours, ensuite on remplit un formulaire. On donne plein de documents, un casier judiciaire, une carte d'identité, les diplômes, etc. pour vérifier vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Le professeur va passer des tests dans la matière et le niveau qu'il souhaite. Donc vous inquiétez pas, si vous validez pas le niveau, par exemple terminal maths, vous pouvez passer troisième maths. Donc on vous donne des chances jusqu'à trouver le niveau où vous maîtrisez tout le programme.
D'accord.
Ensuite, on fait une formation de cours à 4, parce qu'un cours à 4, c'est pas la même chose qu'un cours à 1 ni qu'un cours à 30. Donc,
d'accord,
faut vraiment maîtriser la méthodologie. Évidemment, on laisse les profs prendre des initiatives, mais on donne un peu un minimum d'informations à maîtriser. Et enfin, l'entretien, il est fait complètement en ligne, de façon... en gros, c'est une vidéo d'entretien. C'est-à-dire que les questions sont écrites et le professeur répond. Et derrière, il y a une personne de notre équipe qui va certifier le prof une fois qu'il aura validé toutes ses étapes et vérifié toutes ses étapes, vérifié la pédagogie du professeur dans l'entretien, son niveau dans les tests et son dossier.
Alors, est-ce que tous les professeurs chez Meetingclass sont professeurs de profession dans la vie, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Par exemple, vous étiez ingénieur. Est-ce qu'il y a des ingénieurs qui veulent arrondir un petit peu leur fin de mois, ou d'autres personnes qui ne sont pas professeurs dans la vie?
Ben, typiquement, moi, oui, effectivement, j'étais pas professeur de l'éducation nationale et j'ai quand même donné de très bons cours.
Bien sûr.
Et on est très nombreux à donner de très bons cours sans être professeur de l'éducation nationale. Après, en fait, on va pas sélectionner sur le diplôme. C'est-à-dire que ce qui va vraiment faire la différence, c'est les tests et l'entretien.
D'accord.
Donc, si on a un bon prof, qui n'a pas forcément de diplôme, on va laisser finalement aux parents le soin de... Donc nous, on va vérifier que le prof est capable de donner un cours, mais c'est le parent qui va donner un avis client.
D'accord.
Et en fait, c'est les professeurs qui ont les meilleurs avis qui remontent un peu naturellement sur la plateforme. Donc on a souvent eu des profs qui ont fait Polytechnique et qui sont très mauvais et qui ont eu de très mauvais avis clients.
Ah oui.
Et on a eu des profs qui n'ont pas de diplôme connu, mais qui étaient excellents et qui avaient vraiment une pédagogie. Qui... Voilà. Et ils se retrouvent avec 100 avis clients positifs, avec chaque parent qui écrit une page. Donc en fait, juste à lire tout ça, on a vraiment envie de s'inscrire et de refaire des maths. Mais moi, j'ai presque envie d'aller refaire des maths tellement les avis sont
bons. Oui, parce qu'il y a un côté humain aussi qu'il faut quand on est prof de soutien scolaire. Il y a un accompagnement qui se fait aussi psychologique au niveau des élèves.
C'est encore plus important que le côté technique. Clairement, le fait de donner envie de faire des maths. Quand on a une maman qui nous appelle, qui nous dit « c'est formidable, mon enfant, il s'est levé un dimanche matin, a commencé à faire ses exercices tout seul à 9h du matin », ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas
gratifiant.
Techniquement. Voilà. Ouais. C'est gratifiant et il faut avoir un professeur motivant pour avoir ce résultat.
D'accord. Et alors, les élèves qui ont des cours de soutien scolaire grâce à vous, c'est quel profil d'élèves ?
Alors, on a deux principaux profils. Le premier, c'est des élèves en difficulté qui ont des lacunes. Ils sont là pour les combler. Donc, on va essayer de sauver ces élèves-là et de les faire rattraper tous les autres. Et on a l'autre profil, c'est des élèves un peu, disons, qui veulent dépasser le programme, qui ont des gros objectifs, qui veulent faire... ils savent, dès la seconde, qu'ils veulent faire Sciences Po, ils savent qu'ils veulent faire prépa, ils savent... Voilà. Et c'est des élèves qu'on va accompagner vraiment en plus de ce qu'ils font déjà. Ils maîtrisent déjà plein de choses et du coup, on va faire du plus. Donc, on a vraiment les deux formats et d'ailleurs, les deux cohabitent. C'est-à-dire qu'on peut avoir un cours où il y a un élève en difficulté. Du coup, souvent, l'élève qui a de l'avance va lui expliquer des choses et c'est très bien pour les deux élèves. En expliquant, on comprend mieux.
Ça permet d'intégrer mieux, plus facilement quand on explique.
Exactement, exactement. Et du coup, on va utiliser cette dynamique de groupe. D'ailleurs, il y a énormément d'études qui montrent qu'en petits groupes, comme ça, on arrive à mieux cerner les concepts. Et du coup, c'est complètement complémentaire. On va voir ces deux types d'élèves qui cohabitent et c'est tant mieux pour les deux.
Et quel âge ont les élèves? Alors, les plus jeunes et puis les plus âgés?
Alors, sur notre plateforme, il y a des cours du CP à la terminale.
D'accord.
Et sur toutes les matières, maths, physique, français, anglais. Disons que ce qui est le plus demandé, c'est maths, français et anglais.
Oui.
Mais on a aussi des cours de japonais. On a tout ce qui... En fait, techniquement, on peut créer des cours s'il y a de la demande. Du coup, on va matcher les demandes pour créer des groupes. Et du coup, s'il y a suffisamment de demandes, on peut avoir toutes les matières. On a même un cours de yoga, donc tout existe.
Génial. Vous avez commencé donc dans les grandes villes, hein, les métropoles, donc Paris, Lyon, Marseille. Et puis maintenant, vous le disiez, c'est dans toute la France. Il y a un maillage où il y a des vraiment réguliers, ou est-ce qu'il y a des zones un peu plus demandeuses que d'autres?
Bah déjà, techniquement, on n'a pas commencé à Paris-Paris, on a commencé à Choisy-le-Roi.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on est une sorte... On considère notre marché comme un océan bleu. D'ailleurs, on a gagné un concours qui s'appelle Blue Ocean Awards, parce que en fait, personne ne proposait des cours aux élèves qu'on vise. C'est-à-dire que c'était des élèves qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens à la base, et les cours les moins chers qui existent coûtent 45 euros l'heure, ce que ces élèves-là ne peuvent pas payer. Donc nous, on est venus avec des prix trois fois moins chers, et on est allé dans des zones d'éducation privée, là où vraiment il y avait des catégories socio-professionnelles moins favorisées.
Et ça, c'est très bien de faire ça, ouais.
Voilà, et on était un peu la seule offre. Il y avait des cours au black, mais c'était pas forcément des profs de qualité. Donc ouais. Si on voulait vraiment un prof de qualité à un prix accessible, c'était ça. Et donc on a commencé par eux, et donc c'était Choisy-le-Roi, puis Évry, puis on s'est rendu compte qu'en fait il y avait même des CSP+ qui rejoignaient les cours parce qu'ils trouvaient ça intelligent. Ils disaient, mais pourquoi je vais payer trop cher alors que j'ai de la qualité, j'ai un prof qui est très très bon à un prix accessible. Et donc on a commencé à avoir un brassage entre les deux, et c'est là où on a arrêté de cibler les zones d'éducation prioritaire, on est allé dans toutes les zones. Donc là, on a fait un peu tout le 91, puis tout le 94, puis toute l'Île-de-France, puis Lyon, Marseille, et voilà. Donc finalement, on a fait un maillage comme ça, comme c'est très bien exprimé, c'est un maillage. Et ensuite, ben, petit à petit, on a commencé à avoir de la demande dans des villages à côté, et des profs dans les villages d'à côté. Et du coup, on a enlevé ces contraintes de « il faut être dans la ville ». Et là, aujourd'hui, tous les profs de toute la France dans tout le territoire peuvent donner des cours.
Alors c'est génial, hein, ce concept, pour deux raisons. Bah déjà, vous l'avez dit, des élèves dont les parents n'ont pas forcément les moyens, qui sont en difficulté, peuvent aussi avoir du soutien scolaire, et ça c'est vraiment très important. Peu importe le milieu, il faut qu'on ait accès à du soutien scolaire. Et puis la deuxième chose, c'est dans les petits villages aussi. Alors il y a des problèmes, hein, on ferme des classes, pas assez de profs pour travailler, pour recevoir des élèves. Et là aussi, c'est important, pareil, pour accompagner certains élèves qui n'ont peut-être pas, ou qui doivent aller loin, qui n'ont pas assez de temps, ou il n'y a pas assez de professeurs pour le soutien scolaire. Donc c'est génial comme concept.
D'ailleurs, ça nous arrive de sauver finalement des élèves parce que le prof n'est pas là pendant 6 mois.
Ouais.
Et même si bon, c'est un cours de maths, ils ont 4-5 heures de maths par semaine, avec 2 heures en cours à 4, ils sont complètement en ligne et ils ont complètement tout le programme. Donc ils arrivent vraiment à sauver leur année avec 30 euros par semaine, ce qui est rien du tout.
Alors le concept a plu, hein, puisque il y a eu 3 levées de fonds. Alors vous allez nous les expliquer. La dernière a eu lieu en juillet de l'année dernière. Alors ça s'est passé comment du coup?
Alors la première levée de fonds, c'était avec des business angels, donc via un réseau de business angels. C'était en 2018. Ensuite, on a refait une deuxième levée un peu plus importante en 2020. Donc jusque là, on était sur un total en dilutif et non dilutif d'un million d'euros de levée. Et donc la levée la plus importante, c'était la dernière, c'était en 2021, justement pour lancer toute la France. Et c'était avec le groupe Editis, qui appartient à Vivendi, ouais. Et qui fait en fait tout ce qui est scolaire, édition scolaire, donc notamment les éditions Bordas, les éditions Nathan font partie d'Editis. Et du coup, il y avait une vraie complémentarité entre... en fait, ils n'avaient pas de prof humain, et nous, on n'avait pas de contenu. Et du coup, il y a plein de complémentarité entre le fait d'avoir du contenu et le fait d'avoir des professeurs humains qui donnent des cours.
D'accord, ouais. Et alors c'est quoi les objectifs à moyen terme justement et à plus long terme?
Alors notre objectif, c'est d'être la première plateforme au monde de cours en petits groupes. Donc, j'ai dit cours et pas cours de soutien scolaire. Ouais. Parce qu'on croit profondément qu'on peut tout apprendre en petits groupes. C'est comme ça qu'apprenaient nos ancêtres. Il n'y avait pas d'individuel ni de grande classe. Et donc, vraiment, c'est notre objectif, c'est que ce soit dans du sport, dans tout ce qu'il faut, mais pas tout de suite. Du coup, notre objectif prochain, c'est vraiment d'asseoir toute notre présence sur la France en soutien scolaire, puis dans d'autres disciplines, puis d'aller à l'international.
Oui, j'imagine, parce que ce serait intéressant d'avoir des cours comme ça pour les adultes qui veulent, par exemple, apprendre une nouvelle langue. Je ne sais pas, quelqu'un qui veut apprendre le japonais, le chinois, voilà, des petits cours à quatre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez, du coup ?
On en a déjà. Techniquement, sur notre plateforme, c'est possible aujourd'hui de faire une demande de cours de japonais pour adultes. C'est juste qu'on ne fait pas un marketing spécial là-dedans.
Spécialement dessus.
Et du coup, voilà, techniquement, c'est possible parce que c'est finalement un matching de cours. Nous, on match dès qu'il y a deux demandes d'une même discipline, d'un même niveau en match. Mais on n'en a pas encore axé notre marketing là-dessus. Donc aujourd'hui, 99% de nos cours, c'est quand même des cours de soutien scolaire.
Meet in Class, c'est combien de collaborateurs, du coup ?
Aujourd'hui, on est 14, justement dans nos locaux du 13e arrondissement à Paris.
Et quels sont les profils des collaborateurs ?
On a beaucoup de développeurs, donc c'est un tiers de l'équipe. Et ensuite, on a des gens en service client. Même si tout est automatique sur notre site, on ne se rend pas compte, mais on peut avoir des petits soucis. Donc on a toujours besoin de parler, au moins pour s'améliorer. C'est-à-dire que quand on a les retours des parents, les retours des professeurs, ça nous permet de s'améliorer. Et puis, on a des personnes qui vont recruter les profs, les certifier. Donc, c'est aussi automatique, mais on a une partie, on va regarder les entretiens vidéo. On a aussi une personne qui travaille sur le marketing. Voilà. Donc, finalement, c'est un peu tout ce qu'on peut faire dans la majorité des startups, donc service client, recrutement de ressources et puis développeurs.
Oui, c'est vrai que même quand c'est 100% digital, c'est important quand même d'avoir un retour client, d'avoir un service client qui répond au téléphone, une personne réelle qui est là, ça rassure en plus. Hein.
Bah, en fait, avant d'être tout seul dans nos locaux, on était dans un incubateur qui s'appelait Ionis 361.
Ouais.
On y a passé à peu près 3 ans et demi, 4 ans.
D'accord.
Et on a vu des startups passer, donc on a vu un peu la statistique de 80% de startups qui ne dépassent pas les 3 ans. Donc ça
oui, le cap des 3 ans.
Voilà, on l'a complètement vu. Et en fait, les startups qui restaient par rapport à celles qui partaient, c'était celles qui passaient du temps au téléphone. C'est-à-dire les startups qui étaient un peu sur leur ordinateur en train de développer, on savait que 6 mois après ou un an après, elles allaient partir. Et celles qui étaient sur du téléphone, en train de parler avec des clients, en train de discuter, voilà, bah elles restaient. On a vu que vraiment, c'était quelque chose qui donne...
Ah, c'est marrant.
Voilà, c'est vraiment déterminant. Parler avec les gens, c'est bien et ça marche pour faire une startup.
Pourquoi ? Parce qu'on a un meilleur feedback, on a plus de feedback, du coup ça nous permet de s'améliorer.
Exactement, ça nous permet de sortir notre bulle, on sait comment les gens fonctionnent, on sait le besoin des clients, on connaît le besoin des clients, on connaît le besoin des, par exemple dans notre exemple des profs, et ça permet vraiment de rester connecté avec le réel et d'évoluer. Si jamais on a 10 personnes qui nous disent la même remarque, à un moment on se dit ah mince, il faut vraiment qu'on change quelque chose. Alors que si on est dans l'autre coin, ben on va pas la changer cette chose et peut-être que ça fera toute la différence.
Est-ce que pour vous, du coup, un point fondamental pour une start-up, c'est de se remettre en question constamment pour évoluer?
Exactement. Bah, et pour se remettre en question, il faut parler. En fait, j'aurais pas dit constamment parce que parfois il faut aussi avoir un cap. Voilà, il faut se faire confiance. Mais quand même, si on a 10 personnes qui disent la même chose, à un moment, il faut se dire. C'est à ce moment-là qu'il faut se remettre en question et dire les 10 personnes, elles sont pas moins intelligentes qu'une personne. Et du coup, il faut commencer à y réfléchir sérieusement.
Ouais, c'est vrai que le retour client est très important. On va parler un peu de votre parcours. Bon, là, c'est une réussite, hein, Meet in Class. C'est parti, en fait, de pas grand-chose. Enfin, c'est une expérience personnelle. J'imagine que vous étiez ingénieur de formation. Vous ne vous étiez pas dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais monter une start-up de soutien scolaire. C'était pas ça le but à la base.
J'ai quand même monté une start-up avant. C'était pas ma toute première. En fait, j'étais à l'école centrale et on a la chance là-bas d'avoir une filière entrepreneur. Et donc, cette filière nous permet de lancer une start-up à la place de faire un stage de fin d'études. Et du coup, c'était quelque chose de génial parce que j'ai lancé une start-up qui était un peu trop humanitaire à l'époque. Et en fait, pourquoi c'était une erreur? Parce que finalement, il n'y avait pas de business model qui permettait la vie de cette start-up à long terme. Donc, ça a fait partie des 80% des start-up qui mouraient. Bon, elle n'est pas morte puisque c'est transformé en association.
D'accord. Mais
en tout cas, je n'ai pas continué cette aventure.
C'était une start-up. C'était quelle start-up?
Elle s'appelait Douar In et on emmenait des stagiaires des grandes écoles françaises dans des villages paumés en Afrique et principalement au Maroc pour faire des stages qui apportaient de la valeur aux habitants.
Ah, c'est génial.
Donc voilà, par exemple, on avait des femmes qui travaillaient l'argan et il y a des.
Oui, au Maroc, il y a beaucoup de.
Il y a beaucoup d'argan. Elles mettaient dans des bouteilles de Coca-Cola en plastique qu'elles vendaient dans le marché local à 10 € le litre, alors que ça coûtait 40 € le litre si on le mettait avec une belle bouteille. Et du coup, des stagiaires d'école de commerce, par exemple, les ont aidés à créer une coopérative et à améliorer leur process. Donc c'était ça. Mais le business model, c'était que les stagiaires payaient pour leur stage, alors que normalement, les stagiaires sont payés pour leur stage.
Ouais.
On a réussi quand même à faire payer 50 stagiaires, mais c'était pas viable.
Oui, c'était pas viable.
Comme business model.
Donc,
du coup, c'était ma première start-up. Ensuite, j'ai travaillé dans le conseil en management et en stratégie 3 ans et demi à peu près.
Dans quel cabinet?
C'était CGI Business Consulting et Polyconseil. D'ailleurs,
d'accord.
Polyconseil qui fait partie du groupe Vivendi. Bon, ouais. Bolloré, mais bon, ils sont connectés. Et du coup, c'était une première porte vers la dernière levée de fonds. Et ensuite, 2017, voilà, avec cette maman-là, je me suis dit, bon, là, si je donne des cours, je gagnerai autant que mon salaire, juste avec des cours. Je me suis dit, du coup, il n'y a pas beaucoup de risques. Et puis, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, allons-y. Et puis, au mieux, il y aura plein de profs qui feront la même chose. Au pire, je serai le seul prof avec mes petits élèves. Et c'est très bien aussi. Donc, voilà. Et j'ai sauté le pas. Et puis, j'ai lancé Meeting Class.
Et est-ce que vous imaginiez un tel succès?
Évidemment. Si je me suis lancé, j'imaginais encore.
Vous avez vu grand, en fait. Vous aviez vu grand.
Voilà, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. J'ai vu des parents. Comment je l'ai su? En fait, j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin.
D'accord.
À 15 € l'heure avec ma tête et j'expliquais que, en fait, vous serez 4 et vous paierez 15 € l'heure chacun.
Donc vous aviez testé le concept vous-même.
Voilà, je l'ai testé. J'ai eu une centaine d'appels avec une annonce sur Le Bon Coin.
D'accord.
Et c'est là où je me suis dit, ah,
il y a quelque chose à faire.
Il y a quelque chose à faire. Évidemment, au tout début, c'est facile parce qu'on fait tout par soi-même, etc. Ça avance vite, mais à un moment, Le Bon Coin, ça marchait plus. Voilà.
Ouais.
Du coup, voilà, c'est tout. En fait, on a beaucoup d'espoir. À un moment, ça baisse un peu. Puis on a encore de l'espoir. Et c'est un peu ce qu'on appelle les montagnes russes des entrepreneurs.
Ben, ça, c'est ce que tous les entrepreneurs disent.
Exactement. En fait, on est dans l'euphorie quand on trouve un truc qui marche et puis on va jusqu'au bout de ce truc. Et après, boum, on se tape un mur. On se dit, comment on fait pour passer à autre chose? Et puis on trouve d'autres idées. Et puis,
et là, le mur, c'était quoi? C'était de grandir, parce qu'on sait que c'est compliqué pour les startups. Vous parliez du cap des 3 ans. Il y a pas mal de startups qui échouent au moment du fait de grossir. C'est compliqué de devenir plus gros parce que le modèle change en quelque sorte aussi. C'est ça qui vous a fait un peu peur à un moment?
Bah, en fait, par exemple, on trouvait des élèves sur Le Bon Coin. À un moment, Le Bon Coin a arrêté de nous donner des élèves parce qu'ils nous ont bloqués. Ils nous ont dit, les gars, vous êtes des professionnels, vous n'avez pas le droit.
Il y a trop de business ici. Ouais.
Voilà, et du coup, c'était première étape, mais comment on trouve des élèves? Voilà, Le
D'accord.
Bon Coin, on a trouvé peut-être nos 50 premiers élèves, on était super contents, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, il fallait payer de la pub. Et du coup, pour payer de la pub, il faut lever des fonds. Et du coup, voilà, on est rentré vraiment dans cette logique-là qui n'était pas forcément évidente au début. On a découvert, on voulait un peu faire tout gratuitement, on s'est rendu compte que parfois, on a besoin d'argent, on a besoin de recruter. À un moment, j'en avais marre de répondre au téléphone à tous les parents, même s'ils étaient adorables, parce que je faisais ça, voilà, je pouvais pas faire autre chose. Et du coup, on a recruté notre première personne qui répondait d'ailleurs, qui est la voix de Meeting Class aujourd'hui, qui s'appelle Dalo, elle est magnifique, elle est là depuis à peu près 4 ans.
Depuis le début, en fait.
Voilà,
quasiment.
Depuis le début, et qui est aujourd'hui la responsable du service client, qui est composée de plusieurs personnes. Et du coup, c'est des petites difficultés qu'on rencontre un peu tous les jours. Et parfois ça marche, parfois ça marche moins, et puis c'est comme ça qu'on construit une belle aventure.
Vous êtes, c'est compliqué de recruter des collaborateurs. Comment ça se passait, le recrutement?
Alors, le recrutement, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup aidé, que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Who the A Player. Bon, c'est un truc anglais, en anglais. Et en fait, beaucoup de startups le lisent. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, vraiment, lisez-le. Ça vous donne vraiment les principes pour pas se rater dans un recrutement. Et aujourd'hui, je les applique vraiment beaucoup. Par exemple, en fait, on va demander à quelqu'un qui postule ce qu'il maîtrise le plus et ce qu'il maîtrise le moins. Comme ça, en fait, ça nous permettra d'éviter de le mettre là où il maîtrise le moins.
D'accord.
Et en fait, on va vraiment pousser pour qu'il nous dise ce qu'il n'aime pas dans toutes ses anciennes expériences, jusqu'à ce qu'il sorte vraiment la chose, pas forcément pour ne pas le recruter, mais surtout pour ne pas le mettre dans quelque chose qu'il n'a pas envie. Et il y a 3-4 conseils comme ça qui sont importants. En 10 minutes d'entretien, on sait à peu près si quelqu'un est convenable ou pas pour le poste.
Ah, c'est très intéressant. Le livre, redites le nom, il s'appelle
Who Donc, ouais. The A player. Donc,
d'accord.
En fait,
okay.
Le A player, c'est la personne A, l'équipe A, ouais, qu'on a envie de recruter. Et il nous explique comment avoir une équipe A. Voilà,
voilà, c'est noté pour ceux qui veulent recruter. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de recruter. Parfois, j'en parle avec des fondateurs de start-up. On en parle hors antenne ou à l'antenne. Et le recrutement, c'est quand c'est son bébé, quand c'est sa start-up, ça peut être un peu anxiogène, ça peut être compliqué. Bon, après, il faut aussi lâcher, faire confiance et y aller. Mais ça peut être compliqué, c'est vrai.
C'est un des plus grands challenges d'un entrepreneur, c'est de recruter de bonnes personnes. Et quand on a des bonnes personnes autour de soi, quand on est bien entouré, le projet a toutes ses chances de réussir.
Là, les projets d'ici la fin de l'année, il y en a que vous pouvez nous révéler?
Oui, ben en fait, côté développement, en ce moment, ils sont sous l'eau, donc ça développe beaucoup.
Tant mieux.
Donc notamment, en fait, aujourd'hui, sur les paiements, on a un paiement qui se fait après chaque séance et on a envie qu'il y ait des paiements sur plusieurs périodes, donc sur une année par exemple, mais avec des prix dégressifs, avec des réductions si on paye beaucoup de cours. Et ça, c'est un énorme projet côté tech. En fait, les gens n'imaginent pas combien c'est difficile de mettre des fonctionnalités,
en fait.
Voilà,
ouais.
de mettre des fonctionnalités nouvelles comme sur une plateforme qui existe depuis 5 ans. Donc,
mon c'est quoi, c'est des algorithmes en fait?
Oui, mais justement, c'est plus difficile que ça. C'est comme si mon cofondateur Arnaud le résume bien. Il dit, c'est comme si j'avais écrit une œuvre de Victor Hugo.
Ouais.
D'ailleurs, en nombre de lignes, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a des centaines de milliers de lignes dans un code, et qu'on ajoutait un personnage. Par exemple, on ajoutait un père au personnage principal.
D'accord.
Donc, en gros, on prend le livre.
Oui, c'est.
Et ça a des impacts partout sur toutes les relations. Et c'est pareil pour les fonctionnalités. On veut rajouter un truc, mais ça a des impacts mais partout sur les profs, sur les élèves.
C'est une belle métaphore, j'aime beaucoup.
Moi aussi, je l'adore, et il a raison. Et du coup, c'est quelque chose qui peut prendre une année pour ajouter une fonctionnalité. Surtout, plus l'œuvre est grande, plus le code est grand,
plus
c'est difficile. Et c'est pour ça que des startups comme Blablacar ou Doctolib peuvent avoir des centaines, voire des milliers de développeurs.
Ouais.
On se dit, mais qu'est-ce qu'il fout toute la journée? La plateforme est là, elle est belle. Mais c'est parce que pour ajouter une seule fonctionnalité, faut penser à tout et faut tout modifier.
D'accord, c'est impressionnant. On pense pas à ça quand on voit une plateforme, c'est vrai.
Oui, clairement. C'est quelque chose que tout le monde oublie.
Donc ça sera d'ici la fin de l'année? Possiblement,
oui, voilà.
Potentiellement.
Voilà. Donc d'ici la fin de l'année, on a 2-3 projets tech qu'on veut sortir, dont celui-là, et qui vont, je l'espère, changer notre vie vers le meilleur, et la vie de nos profs et de nos élèves vers le meilleur.
Eh ben écoutez, on l'espère. Alors pour les élèves, on va rappeler le site, donc c'est meetinclass.com. On s'inscrit facilement au final, on s'inscrit. Il faut qu'on trouve quelqu'un autour de soi. Il y a des propositions, donc quand il y a déjà des cours existants, hein, c'est ça.
Avec, on fait une recherche.
On fait une recherche
de cours. En présentiel à côté de chez soi, ou en visio si on veut le faire en visio.
Et le prix donc à partir de
c'est toujours 15 euros. C'est un tarif unique aujourd'hui.
15 euros de l'heure.
Donc voilà.
Et les cours durent combien de temps? Une, deux heures en moyenne ou...
C'est des cours de 2 heures.
2 heures, ouais.
C'est des cours de 2 heures toutes les semaines. Soit c'est des cours hebdomadaires toutes les semaines, du coup on est inscrit quand on est inscrit, on se désinscrit quand on veut. Soit c'est un stage intensif pendant les vacances scolaires. Donc là, typiquement l'été, on fait uniquement des stages intensifs, donc notamment en juillet pour ceux qui sont très motivés, et en pré-rentrée en août pour préparer la rentrée.
Eh bien, c'est génial en tout cas d'accompagner nos élèves. C'est une super idée. Merci beaucoup Youssef Zakaria d'être venu sur le plateau de l'Objectif Startup.
C'était un plaisir, merci.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.